Je serais reconnaissant envers mon donneur s'il entend ma demande de pouvoir le rencontrer, de mettre un visage. Je serais très reconnaissant. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas qu'un don, ça serait un don responsable, un don citoyen. Et moi, c'est dans cette société-là que je veux vivre.
Arthur est un beau jeune homme de 26 ans, brun aux yeux noirs. Il est né grâce à un don de sperme et aimerait avoir accès à ses origines, connaître son donneur pour lui dire merci. Seulement en France, le don de spermatozoïdes est anonyme. Les parents d'Arthur ont fait appel à l'aide médicale à la procréation parce que le père d'Arthur était stérile. Mais leur fils a toujours connu la particularité de sa conception.
On me l'a toujours dit, dans le ventre de ma mère, ça m'a été répété le jour de ma naissance et puis à intervalles plus ou moins réguliers, donc j'ai pas du tout découvert la question. En revanche, c'est vrai que le maillon familial était au courant, mais le reste de la famille, non. Je sais, tout ce que je peux imaginer de mon donneur, c'est qu'il ressemble à mon père. Puisqu'il a été sélectionné, donc il a la même couleur de cheveux, la même couleur des yeux, la même couleur de peau et le même groupe sanguin que mon père. Donc c'est pas très compliqué de l'envisager ou de l'imaginer. C'est-à-dire que quand je croise des gens qui ressemblent à mon père, je peux imaginer que c'est mon géniteur. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, mon père, c'est celui qui a rêvé pour nous, pour ses trois enfants, de trois donneurs différents, de pouvoir se chercher, de pouvoir se trouver, de pouvoir se réaliser avec tous les éléments de notre vie. Et ma foi, je suis très très content d'avoir eu ce père-là. On prend beaucoup de ceux avec qui on vit, et mes parents sont toujours ensemble, ce qui est un phénomène plutôt rare chez les couples hein, qui ont eu recours à ces techniques. Et j'en suis très très content. Donc voilà, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tabou. Mon père ne vit pas comme une diminution mortelle d'être infertile. Il a été un père extrêmement fertile par ailleurs dans notre éducation et dans tout l'amour qu'il nous a donné.
C'est quoi le but de savoir? C'est de, vous l'avez dit, hein, c'est de mettre finalement un visage.
Si je suis majeur, vacciné, que j'ai envie de produire un récit à mes enfants, que j'ai envie de produire un récit narratif, comme le dit Paul Ricoeur, de mes origines, je crois que ça regarde que moi. Chacun a aussi à inventer les mots qu'il convient, parce que finalement on est face à une infertilité dans les mots, une infertilité lexicale quand on réfléchit au donneur. Alors moi j'ai tout exploré, hein. On a pensé à père biologique, à transmetteur de gènes, à géniteur. Évidemment ce sera à inventer. Moi très personnellement, j'ai une famille, il y avait un projet parental, mon père c'est celui que j'ai toujours appelé papa et de toute façon automatiquement j'y arriverai pas. J'ai déjà posé la question à mes parents de savoir si ils s'aimaient. Et mes parents m'ont bien expliqué qu'il y avait énormément de désirs entre eux. Je voulais pas avoir de détails, mais c'est vrai que je voulais savoir s'il y avait de l'amour dans ma famille. Et j'ai constaté avec beaucoup de joie qu'il y en avait beaucoup. Donc c'était très bien, je crois que c'est le principal.
C'est un phénomène récent, l'attention portée à la parole de ceux qui sont nés à la suite d'un don de gamètes. Ils sont 45 000 en France et beaucoup ne connaissent pas le secret de leur conception. Mais pour Hubert, le papa d'Arthur, qui s'exprime ici pour la première fois, il était important de le dire à son fils.
Dans mon esprit, moi je pense qu'un père est toujours un père adoptif, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas issu de notre sein et donc... On a cette démarche d'adoption à effectuer.
Est-ce que vous vous souvenez des mots que vous aviez employés ou ça, vous n'en souvenez pas bien pour l'expliquer?
Je pense qu'on a pris l'image un peu classique de la graine, enfin du père, qui permet de féconder donc son épouse avec des ovules et que j'ai dit que ma graine, moi, ça ne marchait pas. Il y avait un défaut de fabrique et que donc un homme très généreux a bien voulu donner sa graine à la place pour faire en sorte qu'on puisse avoir des enfants.
On se pose la question du père, c'est quoi un père? Vous, en tout cas, vous vous êtes senti absolument le père de vos enfants. Il n'y a jamais eu d'hésitation ou de malaise par rapport à ça?
Je me dis qu'un enfant, de toute façon, même si c'est moi qui lui aurais donné mon patrimoine génétique, je pense qu'il y a plein d'inconnus, il y a plein de manières d'être hein, sur le plan génétique et que, de toute façon, il y a du hasard et qu'il faut l'accepter. Donc on adopte l'enfant, mais jamais le géniteur ne m'a encombré en me disant « Tiens, comment il est? Qu'est-ce qui s'est passé pour mes enfants ?» etc. Ce qui m'a vraiment gêné dans cette affaire, c'est à un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, notamment pour Arthur, il était encombré par cette histoire. Et qu'il y avait un non-dit, enfin une partie de son histoire, comme il dit, qui lui manque. Et ça, ça l'a énormément gêné, je pense.
Si de grands psychanalystes comme Geneviève Delessy de Perceval pensent que les enfants nés du don ont besoin de connaître leurs origines pour se construire, beaucoup de médecins, en particulier ceux qui travaillent dans les CECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, demeurent eux attachés à l'anonymat. Le docteur Jean-Marie Kunzmann est directeur du CECOS de l'hôpital Cochin à Paris. Il revient sur l'histoire du don de sperme à une époque où les questions d'éthique étaient absentes du débat.
Dans les années 70, il était tout à fait impensable pour un homme, en gros, d'afficher une stérilité. Parce que, en gros, c'était assimilé quelque part de l'impuissance. Et, je dirais, il était tout aussi impossible de dire qu'on allait concevoir un enfant avec un autre spermatozoïde que le sien. C'était pratiquement un adultère aussi. Donc, tout ça se pratiquait dans la clandestinité. Et, de fait, les couples qui pouvaient envisager cette solution-là étaient extrêmement culpabilisés de voir que finalement, à aucun moment, ceci ne pourrait être officialisé. Et qu'en tout cas, leur environnement et la société ne pourraient comprendre finalement ce qu'ils étaient en train d'entreprendre. En plus, les donneurs à l'époque étaient des donneurs qui étaient rémunérés, célibataires, donc ils étaient considérés un peu comme des mercenaires du sperme. Et vous voyez que la représentation, je dirais, de cette autre façon de concevoir un enfant était extrêmement péjorative finalement dans la société.
La levée de l'anonymat, selon lui, pourrait dissuader les donneurs de sperme parce qu'ils ne sont pas dans un projet de parentalité. Il s'en explique.
Car le donneur nous dit, écoutez, moi je veux bien donner quelques cellules, et d'ailleurs dont je relativise tout à fait la dimension génétique, et c'est ce pourquoi je peux le faire d'ailleurs, et je les donne pour permettre à quelqu'un de faire un autre projet d'enfant. Mais je ne suis pas dans un projet d'enfant moi-même, et donc en cela, je n'arrive pas à me projeter dans l'histoire de ces enfants, parce que ce n'est pas mon histoire. Et je ne vois pas comment je pourrais ensuite assumer une rencontre avec eux, parce que je pense que ça va être un peu intrusif dans ma propre famille. J'ai aussi mes enfants, j'ai ma femme, et dans la mesure où ils souffrent, comment je peux les aider à régler une question qui n'est pas la mienne, finalement.
Et l'opinion de Christophe, 22 ans, né du don également, vient appuyer la thèse du docteur Kunzmann. Pour lui, il n'y a pas de place pour le géniteur.
Personnellement, je peux pas faire de place à mon donneur, puisque pour moi, c'est une entité immatérielle, qui a pas de consistance. Donc ça me paraît difficile de pouvoir l'intégrer au sein de la famille. La famille, d'ailleurs, en France, repose sur des rapports monogames. Donc d'ailleurs, on pourrait pas imaginer qu'un autre individu puisse avoir un quelconque lien avec le couple, par exemple, ou avec les enfants. On peut pas avoir trois parents.
Pour trouver le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de l'hôpital Cochin, il faut marcher beaucoup, puis monter au 6e étage d'un immeuble un peu vétuste. Le CECOS de Cochin est un des plus grands en France. Ici, on compte 50 à 60 donneurs par an pour satisfaire environ 300 demandes de couples. Sur le plan national, on enregistre 2000 demandes de couples qui font appel aux dons de spermatozoïdes contre 1200 naissances. Pour faire un don de sperme, un donneur doit être âgé de moins de 45 ans et déjà être père. On retrouve le docteur Kunzmann en conversation ici avec Florence. Elle est technicienne de laboratoire.
Florence, c'est le sperme du donneur que vous regardez là ?
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que ça donne, les valeurs spermatiques ?
Bah, écoutez, il est pas mal du tout. Hein. Il a une bonne mobilité. On doit avoir 45% de mobilité globale. Et ouais. Puis, je pense qu'il est assez riche. Il doit avoir entre 100, 120, 150 millions.
Et au point de vue volume, on va pouvoir faire pas mal de paillettes ?
Oui, il doit avoir 4 millilitres en volume. Donc, ça va nous faire une vingtaine de paillettes.
D'accord. Bon, bah, c'est bien.
Ouais. D'accord. Bah, après, il faut voir comment il tolère la congélation, bien sûr.
Oui, bien sûr. Donc, il faudra ensuite, la prochaine fois, voir pour l'enquête génétique.
Hein ? Oui.
Pour que on vérifie si on peut le valider, voilà. D'accord ?
D'accord.
On est ici au cœur de la banque du sperme. Les cuves d'azote frémissent. Elles maintiennent bien au froid des milliers de spermatozoïdes agglutinés les uns contre les autres dans des paillettes scientifiquement étiquetées. Biologistes et techniciens savent faire.
On conserve les spermatozoïdes dans de l'azote, c'est ça ?
Dans l'azote liquide. Oui, les optiques vides à moins de 196 degrés.
Et ça conserve longtemps ?
Les échantillons les plus anciens que nous avons en conservation datent de 1973. Et quand on décongèle une paillette de cette époque-là, on s'aperçoit qu'après décongélation, les cellules bougent encore et à nouveau.
On examine le sperme sur trois grands critères. Finalement, il y a le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité et puis leur morphologie. Voilà.
Nikos Kalampalikis est docteur en psychologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales, maître de conférences à l'Université de Lyon 2. Ses travaux ont porté sur la motivation des donneurs. Il y aurait donc trois grandes typologies.
Il y a trois catégories que nous avons établies. C'est les donneurs spontanés, les donneurs qui deviennent, les hommes qui deviennent donneurs grâce à une initiative personnelle. Et ce sont des hommes pour lesquels le don vient s'ancrer, vient s'inscrire dans un déjà-là. Ce sont des hommes qui sont déjà donneurs de sang, par exemple, de plasma, de moelle osseuse. Ce sont des hommes qui sont impliqués dans des réseaux de solidarité active et qui deviennent donneurs de sperme dans la continuité de ce profil-là de don général. Ça, c'est la grande majorité des donneurs que nous avons interrogés, un peu plus de la moitié. Ensuite, il y a les donneurs que nous avons appelés les donneurs relationnels. Donc, ce sont des hommes qui deviennent donneurs parce qu'ils ont été sollicités par un couple proche. Et donc, leur don est cantonné, disons, dans le cadre de cette relation. Et enfin, il y a une autre catégorie de donneurs qui est une nouvelle catégorie qui n'existait pas dans les études réalisées, par exemple, en France dans les années 80, que ce sont les donneurs que nous avons appelés les donneurs convertis, c'est-à-dire des hommes qui, dans un tout premier temps, ne pensent pas du tout au don de sperme, mais pensent surtout à réaliser une vasectomie pour des raisons essentiellement contraceptives. Ce sont des hommes donc qui sont déjà pères de 3, 4 ou parfois même 5 enfants. Alors à ces hommes-là, les médecins sont obligés de conseiller une autoconservation de sperme, une autoconservation qui ne peut se réaliser en France que dans les sécos, et par la même occasion, certains d'entre eux, effectivement, acceptent, d'où le terme de convertis, de donner aussi une partie de leur sperme pour un don de sperme, donc pour un usage au sein des sécos.
Jean-Luc Bresson est chef du service de génétique et de reproduction du CHU de Besançon. Pour lui, la demande d'accès aux géniteurs pour les enfants nés du don est loin d'être une généralité, mais il faut la prendre en compte.
Ce dont je suis convaincu, c'est que ce ne sont pas les enfants du don qui veulent connaître, mais ce sont des enfants du don. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui revendiquent le droit à la connaissance de l'identité du donneur au nom du droit à la connaissance des origines. Alors après, là, il reste à discuter de ce que sont les origines, effectivement. Mais ce dont je peux attester, c'est que les sécos, les centres qui ont été à l'origine de la quasi-totalité des dons de gamètes en France, ne reçoivent quasiment pas, effectivement, de candidats à la recherche de l'identité du donneur. Alors, il y a certainement, en matière de dons de gamètes actuellement, un vrai problème à résoudre, c'est le problème de l'évaluation. Entre 45 et 50 000 enfants sont nés de dons de gamètes en France depuis 35 ans, et il serait bien, effectivement, qu'on puisse se donner les moyens. Ils sont certainement pas simples, mais d'évaluer quels ont été les retentissements pour les familles en question de ce recours au don de gamètes.
L'accès au droit des origines trouve de plus en plus de défenseurs, et dans ce contexte, il n'est pas impossible que les législateurs penchent de ce côté lors de la révision de la loi de bioéthique en 2010. La France est un des derniers pays occidentaux à ne pas être doté d'un dispositif juridique permettant la levée partielle ou totale de l'identité des donneurs. Merci à tous ceux qui ont témoigné et donné naissance à ce reportage. Les états généraux de la bioéthique, le don de soi, un reportage de Laurence Théo, réalisation Marc Minatel, à la technique Thomas Ferrière.